Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour, ici Émilie Nicolas et bienvenue à Détour. Aujourd'hui, on fait une émission un peu spéciale. Je suis avec Catherine Dorion, qui est une artiste et députée de Québec solidaire de 2018 à 2022 dans le comté de Taschereau à Québec. Catherine vient publier un nouveau livre qui s'appelle « Les têtes brûlées, carnet d'espoir punk » qui a fait beaucoup réagir dès sa publication. Bonjour Catherine.
Allô.
Je suis vraiment contente que tu sois ici aujourd'hui avec nous. Ensemble, on va parler du rôle des médias et de la politique ensemble, ou disons de l'interaction entre les politiciens et les médias. J'ai l'impression que c'est un peu ça le thème principal de ton livre
et
de ta vie des cinq dernières années.
Malgré moi, parce que je pensais pas que j'allais me retrouver dans ce vortex-là, mais c'est ça qui est arrivé.
Et puis de ce qui se passe peut-être plus spécifiquement à Québec avec l'écosystème médiatique là-bas, qui est très particulier. Donc on va en parler entre deux filles de Québec. Bienvenue à Détour.
Catherine Dorion, dans son livre, entre autres, attaque tous les journalistes. Moi, je pensais qu'elle attaquerait particulièrement les journalistes de l'Empire québécois. Ben non, Radio-Canada, Le Devoir, La Presse, Télé-Québec, même Marie-Louise Arsenault ont été trop durs envers elle. Pauvre elle, elle se pose en victime.
Son expérience était globalement négative politiquement. Maintenant, le fait que tu dis, regardez, moi, je vais aller dans une institution guindée, normée, comme le Parlement, et je vais casser de la vaisselle. Puis là, se scandaliser que tout le monde en parle, puis que tout le monde lui demande pourquoi tu casses de la vaisselle, qu'est-ce que tu as à faire à casser de la vaisselle?
Elle est super intelligente. T'sais, les médias, puis là, je m'inclus. J'ai inclus Bibi moi-même là-dedans. Elle nous a manipulés là, pour qu'on parle d'elle, puis tout ça. Là, comme des petites marionnettes. Puis là, elle m'a fait semblant qu'elle est fâchée parce qu'elle a été critiquée, mais elle adorait ça. Elle voulait juste que tout le monde parle d'elle. Parce que, sincèrement, la seule vraie chose qu'elle a brassée, c'est le code vestimentaire. Puis finalement, ils ont plié, puis ils ont laissé porter son chandail qu'elle voulait, son coton ouaté. Puis toute affaire-là un peu tournée à rien. Puis c'est juste de ça dont on se souvient.
Ce n'est pas une rebelle, c'est une fake rebelle. Il y a un mot pour ça. Narcissisme. Elle est l'élue la plus narcissique de l'histoire de la politique québécoise. Elle est à notre vie politique ce que Safia Nolin est au milieu artistique. Quand t'as rien à dire sur le fond, fais parler de toi n'importe comment, y compris avec le poil sous tes aisselles. Franchement, là.
Moi, je partage pas la conclusion de Catherine Dorion qu'on s'en va tous vers le mur, puis tout va mal, puis c'est l'apocalypse, puis la extinction de la race humaine, là. Je pense qu'il faudrait qu'elle prenne une petite camomille, là, puis qu'elle lise notamment ce que son conseiller politique lui a dit.
Il arrive parfois, au fil du feuilleton, que les consommateurs de nouvelles se passionne soudainement pour un élément inattendu du récit politique. Lorsque ça arrive, les journalistes et les commentateurs, excités par l'intérêt accru du peuple, ça clique, ça commente, ça reste à l'écoute, perdent tout contrôle d'eux-mêmes et se lancent dans une espèce de guerre fratricide. Quel metteur en scène sortira en premier le prochain épisode de cette série si lucrative? Là, c'est au plus fort la poche. La fin justifie tous les moyens lorsqu'il s'agit d'obtenir les images, les phrases, les nouveaux éléments qui nourriront les prochains rebondissements. Interrogatoire agressif, harcèlement, intimidation des politiciens jusqu'à ce que l'attention du public s'épuise, et si cela n'arrive pas, jusqu'à ce que les politiciens participants de l'histoire, qui sont souvent des politiciennes, décident par abattement de se retirer de l'espace public. Toute bonne histoire comporte sa dose de sang. C'est comme ça que ça marche. J'ai été une participante particulièrement lucrative de cette télé-réalité dès les toutes premières semaines de mon mandat de députée. « Elle est radioactive », s'exclamait un animateur de radio. Des journalistes, off the record, lire en confidence, me l'avouaient tout de go. Quand ton nom est dans le titre, c'est automatique, le trafic sur la page de l'article pète des scores. C'est ainsi qu'on trouvait toujours quelque chose à dire sur mon compte, peu importe que je veuille montrer ma face ou non, peu importe que cela soit ou non pertinent. Parce que j'avais décidé de me tenir loin de l'esthétique imposée de la députée en série et de son langage javelisé, je représentais, pour tous ces scénaristes en compétition, une ressource à exploiter jusqu'à l'épuisement. J'étais une sorte de Klondike sur lequel on se ruait.
Catherine, j'ai voulu commencer par cet extrait-là. D'abord, merci pour la lecture, parce qu'il y a dans cet extrait-là tellement des thèmes que tu abordes dans ton livre sur la relation, disons, extractiviste de plusieurs personnes dans les médias par rapport à la personne que tu es. Lorsque tu as fait ton passage à l'Assemblée nationale comme députée. Puis là, je veux dire quelque chose qui sort du champ gauche complètement, parce que je me suis dit, comment est-ce que je présente Catherine Dorion aux gens qui nous écoutent, qui ne te connaissent pas nécessairement, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent partout au pays, qui ne suivent pas nécessairement tous les jours la politique québécoise. Puis je me suis dit, en fait, quand j'ai lu ton livre, dans la manière dont tu te racontes et même dans les réactions que ton livre a suscité, je me suis dit, même si tu es complètement ailleurs idéologiquement, il y a quelque chose dans les dynamiques interpersonnelles et sociétales et politiques dans ce livre-là qui m'a rappelé Lady Di.
Oh, ouais! Intéressant! Ouais.
Lady Di.
Je comprends ce que tu veux dire. Le fait que parce que ça vend...
Ouais, que tu es comme arrivé dans Québec solidaire et, disons, l'Assemblée nationale comme institution britannique, hein, à la base, institution politique issue de la monarchie, et qu'il y a une danse établie là-dedans entre l'institution et les médias, et que tout le monde se comprend là-dedans. L'institution est allée te chercher, Québec solidaire est allée te chercher, notamment parce que tu as un rapport avec le peuple, qui est très, très, très spécial, une capacité de mobiliser les gens tant sur tes prises de parole qu'en personne, que sur les médias sociaux, très, très forte, et que c'est ça qu'on a voulu aller chercher, qu'on a aimé dans toi. Je fais ce parallèle-là parce que c'est comme si ta force est aussi devenue un danger, au sens où parce que dans un parti politique aussi, tout est fait pour, puis là, je reconsens que ma même métaphore, protéger les membres seniors de la famille. Le fait que tu shines comme ça, alors que c'est pas ton rôle, ça peut devenir, malgré toi et malgré même l'intention de qui que ce soit, quelque chose qui crée un problème dans, dans le système. Puis ce qui m'a frappé aussi, c'est la manière très transparente avec laquelle tu parles aussi de l'impact que cette attention-là des médias, tu parles beaucoup des chroniqueurs de droite ou du commentariat, cette attention-là des médias, l'impact que ça peut avoir aussi sur ton rapport à toi-même, ton rapport à ton image, puis ta santé mentale aussi. Merci d'avoir été transparente là-dessus.
Mais en même temps, tu sais, moi, c'est une des choses qui me déroute depuis la sortie du livre, c'est beaucoup de gens disent « Ah! » Catherine, je savais pas à quel point t'étais malheureuse. Mon Dieu, c'est tellement triste comme livre, c'est souffrant. Puis c'est drôle, moi, j'avais pas cette impression-là. Même en le lisant après, je me disais, je fais juste dire les difficultés que j'ai vécues, mais je les vois partout, ces difficultés-là. J'ai pas l'impression de vivre quelque chose de plus difficile que d'autres politiciennes qui ont décidé de prendre des risques, en quelque sorte.
Oui, mais il y a personne qui va bien, là.
Ben c'est ça. Tout ce qu'on a, mais c'est vrai. Exact.
L'anxiété,
en plus, même au-delà des politiciennes.
C'est ça, l'anxiété est tellement généralisée. Ben, qu'est-ce que tu parles?
Moi, ce dont je parle là-dedans, j'ai l'impression que c'est plutôt courant. Tu sais, il y a un moment qui ressemble vraiment à un burn-out. Il y a des moments de difficultés intenses, mais j'entends ça. Moi, tout le long de mon mandat, des infirmières me parlaient qui vivaient ça, des enseignants.
Oui, c'est ça.
C'est partout. Fait que c'est pour ça que je me dis, est-ce que le fait que ce soit considéré comme oh mon Dieu, que c'est. T'allais mal, tu sais, je me dis, est-ce que c'est une forme d'aveuglement? Tu sais, on veut individualiser un peu cette idée-là, alors que je pense que je me trompe pas. Je pense qu'on va pas bien psychiquement. On est nombreux à pas bien aller.
Non, c'est ça. C'est pas quelque chose contre toi individuellement, mais en même temps, c'est comme si il y a une culture dans le milieu politique où Si j'ai côtoyé aussi ce milieu-là, j'ai l'impression que les gens sont tous un peu des toxicomanes de l'adrénaline. En fait, l'adrénaline est une drogue. Puis, quand t'es dessus, des fois, tu réalises pas ton propre épuisement. Puis, il y a quelque chose aussi dans la manière où quand ton corps s'écrase, ça devient difficile pour certaines personnes de pas le voir comme t'es en train de pas être à ton devoir. Parce que justement,
oui, les pressions sont énormes pour justement dire qu'est-ce qu'a fait, sur tel dossier. On vous a pas entendu là-dessus, ça c'est partout. Puis les médias peuvent à tout moment te prendre à partie puis dire on l'a pas vu là-dessus puis tout ça. Puis c'est eux qui font l'histoire. Fait qu'à la fin, si ces temps-ci, par exemple, j'en entends plusieurs commentateurs de droite. T'sais, moi j'ai eu un mandat extrêmement rempli. J'avais beaucoup de dossiers. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans mes dossiers. Puis j'étais constamment, par rapport à un député moyen là, qui a souvent pas de dossier. Des fois, on a un, tu sais.
Ouais.
J'avais une charge de travail énorme, puis je l'ai accompli, là, mais tu sais, jusqu'à me rendre malade. Mais quand les commentateurs, en ce moment, quand le livre est sorti, il y en a beaucoup qui se sont mis à dire « Qu'est-ce qu'elle a fait à part... » Puis là, ils vont nommer les scandales qu'ils ont fait sur mon cas. Évidemment que les gens, le citoyen lambda se souvient de ce que les médias ont montré avec le plus de bruit, tu sais, puis ils seront pas capables de nommer. Ah, ben elle a été sur la commission sur l'avenir des médias, elle a forcé pour que la réforme de la loi sur le statut de l'artiste passe. Elle a ça, ils vont pas parce que ça a pas eu d'écho médiatique. Fait que ça fait une espèce d'histoire qui est montée par eux, puis qui après est sans cesse renforcée par eux. Une des raisons pour lesquelles je suis pas restée plus que 4 ans, c'est que l'effet sur qui tu es est énorme. Je pense que ça arrive à tout le monde. Tu arrives là, mettons que tu es sincère. Tu dis, moi, je suis une militante, je veux vraiment défendre de façon sincère et appliquer là, des valeurs. Puis là, tu restes crocheté à ces valeurs-là, puis à un moment donné, tu déranges, parce que si t'es allé en politique, c'est parce que le monde ne correspondait pas à ce que tu désirais qu'il soit, et tu arrives pour essayer de le changer un peu, ça dérange. Tout à coup, des médias bourgeois, hyper installés, conscients de leur pouvoir et désireux de le garder, se mettent à te chier dessus, puis... Mais ils chient pas sur tes idées, sur les valeurs que tu défends, sur ce que tu as amené dans l'espace public. Ils chient sur toi. Donc, ils commencent à te décrédibiliser, puis à dire, cette personne-là, faut que personne ne l'aime, faut que tout le monde la juge, faut qu'elle soit détestée. Si tu reviens toujours, de façon régulière sur « non, en fait, je défends des valeurs, je ramène ces valeurs-là, je vais faire quelque chose pour les faire avancer », ça va être soit ignoré, ou soit ils vont se remettre à dire que c'est toi le problème, que t'es laide, que t'es mal habillée, que tu parles mal, que t'es une narcissique, que t'as... Surtout si t'es une femme.
Moi, j'ai commencé à être dans l'espace public québécois, dans le combat sur la Charte des valeurs. J'ai été co-porte-parole de la campagne pour demander au gouvernement du Québec d'agir sur le racisme systémique.
Que des choses très consensuelles
ouais, ben c'est ça.
Chez les chroniqueurs.
C'est ça, c'est ça. Puis pour moi, en fait, c'est pas juste les chroniqueurs, c'est les chroniqueurs et la classe politique.
Oh oui, c'est vrai. Non, c'est effectivement.
Ça.
Oui,
c'est ça. Puis tu sais, moi, je vois, c'est intéressant parce que depuis maintenant 4 ans, je suis moi-même dans les médias, que je suis devenue chroniqueuse au Devoir en 2019. Puis c'est comme si j'ai accès plus à l'affaire de l'intérieur. Je vois la manière dont ça fonctionne un peu plus. Puis je vois la pertinence de certaines observations que tu fais sur, disons, l'influence de la nouvelle en continu et la manière dont ça force les gens à toujours chercher la petite anecdote du jour, là. Quand tu parles aux journalistes, c'est toute la faute des politiciens qui répondent par des clips et qui, donc, deviennent de plus en plus agressifs pour essayer de faire dévier les gens de leurs clips. Puis, quand tu parles aux gens qui ont fait de la politique, tout est de la faute des journalistes aussi. C'est quoi le...
C'est sûr que ma vision est biaisée, là. T'sais, j'ai jamais été journaliste, puis j'ai pas... J'ai fait de la chronique un peu, mais tu sais, moi, je viens de vivre, pendant 4 ans, un champ de mine, là. Fait que c'est sûr que je parle depuis un point de vue qui est basé sur mon expérience. Puis, de plus en plus, même, ça m'a pris du temps à reconnaître sincèrement à quel point il y avait des travailleurs des médias qui étaient impressionnants, qui, malgré la force du courant, restaient sur leur ligne, comme j'ai essayé, puis comme j'ai vu d'autres gens en politique essayer de le faire. T'sais. Donc, le système médiatique, à mon avis, est brisé, et le système politique est tout aussi brisé, puis ils fonctionnent ensemble, et les failles se creusent l'une dans l'autre. Là. T'sais, c'est vraiment une maladie partagée, disons. T'arrives en politique et tu penses que tu vas défendre des idées, puis oui, les idées font partie, puis oui, ça serait pas exactement pareil si le PQ ou Québec solidaire ou la CAQ étaient au pouvoir. Mais le pouvoir qu'il y a dans un gouvernement provincial est petit, c'est pas grand. Même dans un gouvernement d'État aujourd'hui, ils sont soumis à des multinationales qui parfois sont plus puissantes que les États eux-mêmes, qui se mettent ensemble, qui ont, y ont des coalitions d'intérêts extrêmement fortes. La démocratie est en crise profonde. Fait que, au lieu de remarquer ça, puis d'assumer, puis de dire, bon, les médias sont pas en bonne forme, nos politiciens peinent à démontrer leur utilité et même à ressentir leur utilité, je dirais. Puis, ben, on présente ça au peuple comme étant le lieu de la démocratie, alors que c'est plus vrai. C'est devenu un lieu où, oui, certaines décisions qui vont toucher beaucoup de gens peuvent se prendre, qui peuvent être même très importantes, très bonnes ou très mauvaises, avoir beaucoup d'impact négatif. Oui, mais face aux défis de notre époque, qui sont immenses, beaucoup plus grands que les petites avancées ou reculs que va pouvoir faire un gouvernement, j'ai l'impression que tout le système doit être jugé comme un tout. Puis que c'est, ça va être difficile de dire, est-ce que des politiciens bien intentionnés qui n'étaient pas en train de diviser pour régner, qui pensaient vraiment au bien commun, au fait que chaque groupe de la société comprenne les autres groupes et qu'on forme une cohésion qui ne soit pas basée sur le « on est tous pareils », mais sur le « on est tous ensemble », on se comprend, on s'entrenourrit, tu sais. Ce serait des bons politiciens, essaieraient de faire ça. Mais à quel point c'est possible aujourd'hui? Je vais appeler ça notre espace de liberté parce que ça veut aussi dire l'argent que chaque famille possède, la capacité de s'exprimer. Quand t'as pas d'argent, est-ce que tu peux aller à l'école, te faire soigner? Bon, appelons ça, disons, la liberté du peuple là, est attaquée de toutes parts par des puissances qui se trouvent pas au gouvernement. Mm-hmm. On dirait que le gouvernement est juste... Les gouvernements qu'on va lire vont être différents dans la manière de réagir à ces puissances-là. Est-ce qu'ils vont être des larbins complets, licheux, finis, ou est-ce qu'ils vont un peu essayer de lutter? Puis encore là, à quel prix? Là où je ramène, disons, la responsabilité des médias, c'est que, bon, disons que t'es un bon gouvernement, disons que t'essaies vraiment de libérer le peuple puis de le protéger contre les rapaces qui essayent de lui voler sa liberté. Là, il va se retrouver face à des forces médiatiques qui vont avoir un impact sur cette tentative-là de libération. Ça fait que quand t'arrives au Parlement, le monde politique te dit « c'est comme ça que ça marche, essaye pas d'autre chose », puis le monde médiatique te dit « c'est comme ça que ça marche, essaye pas d'autre chose ». Fait que ça demande une détermination du calice pour être capable juste de te rendre au bout de 4 ans en n'étant pas devenu toi-même en partie la machine, tu sais.
Je pense qu'au-delà de cette déconstruction-là, il y a aussi, je pense, une question de c'est quoi la tactique que chacun des individus, peu importe son rôle, prend là-dedans. Puis il y a dans ce que tu as dit tout à l'heure et dans ton livre aussi quelque chose, en fait ça s'appelle Carnet d'espoir punk, mais pour l'instant, même dans la conversation qu'on vient d'avoir, c'est pas l'espoir qui sort.
Non, c'est sûr.
C'est pas l'espoir qui sort. Est-ce qu'il y a des manières que tu dis, OK, avoir su, j'aurais pris plutôt telle tactique pour faire passer mon message, ou est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment?
Il y a plusieurs choses que je ferais différemment, mais c'est sur des... C'est pas sur la manière dont j'ai utilisé mon poste de député et le symbole aussi que ça représente pour brasser le système, disons ça comme ça. C'est sur des choses au long de mon mandat, des choses qui se sont passées, que j'aurais aimé qu'il se passe autrement. Puis je me dis, j'aurais pu faire ceci ou cela. Mais non, je regrette pas sur cette histoire de comment j'ai fait les choses, tu sais. Parce que cette espèce de bétonisation du monde politico-médiatique ou de la scène, le spectacle qu'on nous sert comme étant notre démocratie en marche, c'est bétonné et tout le monde le sent. Les gens sont pas fous, là, tu sais. Même ceux qui suivent pas la politique, il y a un sentiment très sain, très normal, qui prouve notre intelligence collective, de un sentiment d'impuissance, un sentiment de... c'est de la bullshit, en fait. Moi, j'aimerais qu'on parte de là, tu sais. OK. C'est pas un jeu dans lequel tu peux vraiment transformer le monde, changer le monde, améliorer le monde, faire face à ceux qui exploitent le peuple. C'est pas un jeu où tu peux gagner tant de points que ça en respectant les règles. En fait, ils gagnent des points bien plus vite, les exploiteurs, que toi, tu peux en gagner en respectant ces règles-là. On le voit à quelle vitesse, là, on s'en va dans le trou, tu sais. C'est autant sur les inégalités, sur l'environnement, sur la crise de la santé mentale, l'économie de l'attention. Ça va tellement vite. Ils gagnent des points du pouvoir. Le pouvoir et la richesse se concentrent à une vitesse tellement folle. Puis là, nous, il faudrait se contenter de dire « Oui, mais on a passé une loi pour réformer tel truc, tu sais, c'est bien. » Oui, c'est bien, mais c'est pas assez. Si c'est ça, le pouvoir du peuple, le peuple n'a pas de pouvoir. Assumons-le. Bon, fait que là, à partir de ce constat-là, je me dis, qui en plus, je le constatais, était partagé, dans la population, qu'est-ce qu'on essaie d'autre que de jouer les règles du jeu? Mm. Puis, je ne sais pas quoi essayer d'autre. Je pense qu'on ne le sait pas. Personne, si on le savait, on avancerait pas mal plus vite, puis on aurait moins ce sentiment d'impuissance-là. Mais là, c'est là où ma déformation professionnelle d'artiste m'a servi. C'est que tu essaies, il faut que tu tâtonnes à l'extérieur de ce qui existe déjà. Essaye quelque chose. Puis quand on m'a dit, mais voyons, ça n'a pas de bon sens, tu fais autre chose, je me suis dit, mais oui, c'est pour ça que je suis venue. Je ne suis pas venue pour faire comme vous, ce que je voyais déjà. Même, je trouve ça dangereux qu'on exige ça, parce que si seuls ceux qui aiment ce qu'ils voient à l'Assemblée nationale s'y retrouvent et y restent, ben, il n'y a pas d'espoir. Mmh. Fait que moi, j'étais fière, puis je jugeais comme une bonne, miroir là, le fait de me faire dire « tu respectes pas ci, ça n'a pas de bon sens », de choquer, parce que je ne faisais pas juste choquer. J'avais beaucoup de monde derrière moi qui, à mesure qu'on me rentrait dedans... J'avais tout autant d'appui, c'est ouais. Ça, tu sais. Fait que je voyais aussi que ça portait des fruits, que ça, c'était, qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait là-dedans, qu'on pouvait apprendre des choses à faire ça, puis qu'on pouvait développer des communautés, on pouvait renforcer des communautés en les rendant fiers, en donnant en gagnant des petites batailles, là, mais il reste que quand on commence à en gagner, bien, il y a une possibilité d'en gagner plus.
Je veux dire, tout est dans tout, parce que à force de vouloir dire, je vais faire les choses autrement, j'ai l'impression qu'une des choses que tu essayais de faire autrement, c'est d'écrire un livre en sortant de la politique.
Ouais.
La réaction au livre est un peu venue rajouter une couche sur ce que tu essaies de dire dans ton livre.
Mm-hmm.
C'est pour ça, pour moi, c'est la comparaison avec Lady Di qui m'est venue le plus en finissant ce livre-là, parce que je me suis dit, merde, c'est un peu comme l'entrevue avec la BBC où elle était là en train d'essayer de vouloir expliquer ce qui s'était passé de l'intérieur, puis que finalement, c'est en expliquant ce qui s'est passé de l'intérieur, tes mots deviennent, encore une fois...
Un épisode pour leur feuilleton.
Ben oui, parce que ce que tu fais, c'est remettre en question les médias et remettre en question le fonctionnement des partis.
Mm-hmm.
Donc, toutes les gens qui s'identifient à la manière dont les médias fonctionnent ou à la manière dont les partis politiques fonctionnent, peuvent le vivre comme une attaque personnelle.
Mm-hmm.
Et donc,
ils l'ont vécu, certains, comme une attaque personnelle.
Ils l'ont vécu comme une attaque personnelle. Hein,
certains ont été très touchés et se sont reconnus. Même dans le monde des médias, parce que par mon récit, et d'autres étaient comme je suis blessée, je me sens jugée.
Je me sens jugée, puis parce qu'en fait, c'est souvent ça la projection, c'est quand une personne, peu importe le contexte, hein, quand une personne se sent jugée, elle dit que c'est l'autre qui méprise.
Mm-hmm. C'est vrai.
Donc, tu deviens méprisante, mm-hmm. Catherine,
mm-hmm.
parce que les gens se sentent jugés
mm-hmm.
dans la manière dont tu t'exprimes.
Mm-hmm. C'est intéressant, ça, parce que ça veut dire que dans le livre, je raconte de façon... Tu sais, on a dit beaucoup, elle tire à boulet rouge sur tout. Non, moi, je raconte une histoire. C'est vraiment écrit comme un journal intime. Tu sais, je raconte comment j'ai vu, ressenti, réfléchi sur les choses. Des gens se sentent jugés, mais je me dis, si tu défends ce système-là tel qu'il est, je dirais pas que j'ai du mépris pour toi, mais je dirais que j'ai une forme de... que ça ne génère pas chez moi un grand respect quand même. Parce que ce système-là est en train de nous détruire, tu sais.
Fait que tu l'assumes, finalement, le fait que ça puisse blesser des gens, la manière dont tu t'exprimes.
Si des gens sont prêts à se lever pour défendre ce système-là tel qu'il est, ben c'est mes ennemis quelque part.
Ou tes adversaires, pour le moins.
On essaie de dire ça, oui, mais moi, j'aime bien les mots. Hein, c'est mon côté artiste, là. Mais le mot ennemi, là, tu sais, on se bat pour deux choses qui s'opposent. T'es contre moi. Ben pas toi, mais je veux dire quelqu'un.
Ouais, ouais.
Il y a des gens qui sont contre moi parce que ce que je fais avancer, eux, c'est l'inverse de ce qu'ils font, tu sais, jour après jour. Fait que on n'est pas du même côté de la ligne. Puis, tu sais, peut-être qu'on peut l'assumer aussi. Je trouve qu'on a beaucoup de difficultés à gauche de faire ça. On a des ennemis. Il y a des ennemis de classe. Il y a des ennemis qui utilisent des organismes, des structures pour écraser le peuple, pour suctionner encore plus d'énergie, d'argent, de liberté à des gens qui en ont déjà presque pas, pour nourrir une toxicomanie dans les hautes sphères de pouvoir et d'argent, tu sais. Fait que moi, il y a quelque chose là-dedans, dans la beauté de la lutte, d'assumer que des gens vont être contre nous, que des gens vont vouloir nous détruire, au moyen de notre image, tu sais.
Je pense que je fais cette nuance-là parce qu'il y a beaucoup, dans ce qu'on a vu dans les dernières semaines aussi, des déchirements à l'intérieur de la gauche.
Ah oui, ah ouais, ben là, oui, c'est vrai. Là, oui, on pourrait plus parler d'adversaires. Parce que là, non, on lutte pour la même chose.
Ou juste des fois des choses qui sont présentées comme l'un ou l'autre, alors que la réponse, c'est les deux.
Oui.
Puis qu'il y a deux, trois, quatre affaires qui peuvent être vraies en même temps.
10, 15, tu sais.
Puis fait que c'est plus là que ce que tu dis peut être vrai et que le vécu de plein de personnes attaché politique, député, etc., peut être aussi vrai. Et probablement que la vérité, c'est l'ensemble de l'affaire.
Ouais. À Québec, pendant des décennies, André Arthur a fait sa fortune en s'en prenant à la réputation des personnes, connues ou pas. Autoproclamé « roi des ondes », cet animateur moustachu, excellent communicateur, était l'intimidateur en chef de ma ville. S'il te prenait pour cible et décidait de te ruiner socialement, tu pouvais trouver la descente crissement pas drôle. Ma mère disait « André Arthur, dès qu'il y a une tête qui dépasse à Québec, il cogne dessus ». Quant à mon père, l'avocat Louis Dorion, c'était un personnage excentrique, vif, expressif et intelligent. Il aimait la fête et avait une tonne d'amis. La ville de Québec était son pays. Dans les années 80, la voix funeste d'André Arthur s'est abattue sur mon père avec acharnement. L'animateur poubelle le qualifiait à répétition de bandit, d'escroc et de faiseur de faillite. Arthur a fait perdre à mon père tout ce qu'il avait bâti et plus encore. Il n'a eu besoin que de deux choses pour réaliser cet exploit, le mensonge et un micro. Louis a sombré dans un état psychologique lamentable à forte consommation d'alcool, ce qui a contribué à son divorce d'avec ma mère ainsi qu'à la décision de ses associés de lui montrer la porte de ce bureau d'avocat fondé par son propre père. Il a dû avaler tout ça, puis quitter la ville pour se refaire une vie dans un lieu non pollué par l'animateur. J'avais 5 ans. Dorénavant, pour aller voir papa, j'allais faire pas mal d'Orléans Express. C'est pas rien. Si on s'aventure trop loin dans l'affrontement d'un tel pouvoir et qu'on n'est pas assez agile, on sait très bien qu'on peut être poussé dans le trou et ne plus savoir comment remonter. Ça fait peur, en Saint-Simonac. Vers la fin des années 90, après avoir traîné pendant des décennies, les poursuites en diffamation intentées par mon père contre l'animateur se sont finalement dénouées et j'ai pu profiter de l'argent versé par Arthur pour étudier, ainsi que pour faire plusieurs voyages qui ont formé ma jeunesse. En d'autres mots, sans celui que René Lévesque qualifiait de termite social, je n'aurais pas fait d'échange à Santiago ni à Saint-Pétersbourg et je n'aurais pas mon diplôme du King's College London. Sauf que mon pops, lui, était mort. Cette forme d'intimidation n'était soumise à aucun surveillant de cour d'école digne de ce nom. Elle faisait ses petites affaires à son rythme, à son goût, sans être inquiétée de rien ni de personne, sauf en de très rares cas, tandis que des femmes et des hommes se faisaient varloper, poussés jusqu'à la dépression et tassés de l'espace public par ses bons soins.
Le chapitre m'a sauté à la face, Catherine, parce que j'ai comme l'impression que c'est comme ton origin story. Si tu veux comprendre ton rapport aux médias.
Peut-être, hein? Il y aurait de la psycho.
Mais c'est fou, en fait, parce que là, ce qu'on parle, c'est du trauma intergénérationnel des radios poubelles de Québec. D'être né là-dedans. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui nous écoute qui comprend de ce dont je parle, là, mais la culture du trash radio à Québec, dont André Arthur est le fondateur, essentiellement, et qui a créé toutes les émules dans les radios privées de Québec où il peut toujours avoir des voix alternatives, puis tout ça, mais le modèle à faire, la manière de faire l'argent dans la radio à Québec, ça a longtemps été de varger sur des individus.
Et sur des groupes vulnérables aussi.
Et sur des groupes vulnérables.
Ça change tranquillement à Québec. Ça s'est assaini un peu, là. C'était un modèle, ils se faisaient compétition, les radios privées les unes les autres, pour être trash. Là, il en reste une, tu sais.
Ouais.
Les autres sont bons. Je peux te lire, là, juste les titres de Cube Radio sur ce livre-là, là,
cette semaine.
Catherine Dorion, comme une longue crise d'adolescence, lance Marie Montpetit. Catherine Dorion est l'élue la plus narcissique de l'histoire de la politique québécoise, lance Joseph Facal. Catherine Dorion est égoïste, dit Richard Martineau. L'incohérence de Catherine Dorion, une question d'opportunisme. Qu'est-ce qu'ont en commun Catherine Dorion et Donald Trump? Catherine Dorion, qu'elle prenne une petite camomille, lance Yasmine Abdel-Fadel. Catherine Dorion a manipulé les médias, selon Mario Dumont. C'est ça, tu tapes mon nom dans Cube Radio, c'est ce que je trouve. Fait que ça, c'est typique Radio Poubelle.
Avant, c'était juste à Québec. Puis maintenant, ce que tu dis, c'est que...
Ça s'est exporté dans des radios locales, en région.
Qui fonctionnent un peu partout. J'avais envie qu'on se penche là-dessus parce que il y a une histoire particulièrement forte dans l'histoire récente de la ville de Québec. C'est l'attentat à la mosquée en 2017. Et t'en parles, notamment aussi dans ton livre. Ton expérience avec les radios, et là, on le voit avec ce chapitre-là, ton expérience intergénérationnelle avec les radios, l'impact que ça a eu dans ta sensibilité à l'islamophobie à Québec.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Est-ce que tu veux nous expliquer comment est-ce qu'on peut arriver à ah, les radios poubelles intimides du monde, donc je veux pas d'islamophobie?
Est-ce que c'est quand même... Oui, okay. Les radios poubelles, l'histoire à Québec des radios poubelles puis des animateurs poubelles, là, c'est qu'ils ont, ils prenaient des gens pour cible. Puis à un moment donné, ils ont reçu beaucoup de poursuites en diffamation.
Ouais.
Pour éviter ces poursuites-là en diffamation, mais continuer à taper sur des boucs émissaires parce que ça faisait vendre de la publicité puis ça faisait de l'audimat, ils ont transféré leur cible puis là, ils sont devenus des matraqueurs de groupes sociaux. Fait qu'il y a eu plusieurs groupes sociaux qui ont été ciblés.
C'est ça, parce que pour bien expliquer, c'est que tu peux poursuivre en diffamation lorsque tu cibles un individu, mais si tu cibles un groupe au complet, t'as pas les mêmes recours légaux, donc ça te protège si tu parles des groupes généraux plutôt que d'un individu.
Et c'est un grave problème. Il y a André Arthur, par exemple, a pris à partie pendant très longtemps les chauffeurs de taxi haïtiens de Montréal en disant toutes sortes d'horreurs. C'était des insultes très, très racistes. Puis ça a été jusqu'en Cour suprême. Puis finalement, André Arthur n'a pas été condamné. Fait que il y a quelque chose parce que c'était difficile de prouver que chaque personne avait vraiment vécu un tort, blabla. Tu sais, la loi est mal faite.
Mais je pense que c'est important parce que ça a eu un impact sur André Arthur. Donc, même si c'est une nouvelle de Québec, ça a eu un impact sur tout le pays.
Mm-hmm.
Parce que dans le fond, ce qu'il a montré, c'est que c'est si tu es raciste envers un groupe au grand complet, légalement, on ne peut rien faire.
Mm-hmm. Exact. Tant que tu n'es pas de l'incitation à la haine pure, puis ça, c'est, on sait que c'est difficile à prouver, à gagner ça. T'sais. Fait qu'ils se sont mis à taper sur les gens qui étaient sur l'aide sociale, les musulmans, les noirs, LGBTQ, les femmes, les féministes, les cyclistes, ça allait très loin, les étudiants, les artistes. Bon. Puis, à un moment donné, ça a été dans l'air du temps. Animateurs trash, politiciens qui allaient chercher des votes en jouant aussi à ce jeu dangereux du bouc émissaire se sont liés. On misait sur les immigrants, c'est pas bon. Les religieux, les musulmans, les juifs, ils ont toutes sortes d'idées débiles. Il y a eu les accommodements raisonnables. Tout ça, cette histoire-là, a été montée. Puis à Québec, c'est devenu assourdissant. Mais là, on en entendait vraiment beaucoup. Puis il y avait des animateurs qui étaient partout, qui répétaient des choses horribles. Tu sais,
quand
il y
a eu, parle de la fin des années 2000, début 2010. Là.
Ouais, puis même jusqu'à récemment. L'attentat à la mosquée, c'était en 2017. Il y avait eu avant toutes sortes de choses dans les années qui ont précédé.
Ouais.
Il y a eu la tête de cochon coupée, écrit « Bon appétit dessus », laissée à une porte de mosquée. Puis c'était clairement un geste d'intimidation, de haine. Puis il y avait des animateurs. Éric Duhaime disait « Voyons, ça peut être un cadeau aussi. »
Justement, un bel exemple de ce dont on parle, Éric Duhaime, qui était animateur à la radio à Québec, qui est maintenant chef du Parti conservateur du Québec. Québec. Ouais.
De répandre des trucs comme ça, c'est vraiment d'une horreur qui me faisait très mal. Puis comme j'ai été députée tout de suite après, à partir de 2018, ça continuait. La CAQ faisait passer une loi qui était... Certains voyaient ça comme, oui, mais c'est important de pousser pour la laïcité, pour s'assurer que les religions n'envahissent pas toute notre vie. Donc, il faut que les signes religieux ostentatoires, on s'entend que ça parlait surtout du voile, ne soient pas permis. Mais c'était quoi? Cette loi-là, peu importe, on peut défendre ça. Tu sais, que quelqu'un dise, moi, je suis d'accord que les professeurs n'aient pas de signes religieux ostentatoires. En soi, ça ne serait pas un problème tant que ça. Le problème, c'est que la raison pour laquelle la CAQ faisait passer cette loi-là, c'était pour faire du capital politique sur le racisme. Et là, tu avais toute une partie de la sphère médiatique qui aussi embarquait dans ce truc-là. Puis là, c'était partout. Là, c'était juste ça. Puis à Québec, encore plus. Fait que là, la haine anti-musulmane, l'islamophobie était presque banalisée, normalisée dans le discours de tous les jours. Puis là, on discutait plus de est-ce qu'un professeur devrait avoir le droit de mettre un signe religieux. Là. On discutait de est-ce que les musulmans sont haïssables ou non. C'est très dangereux là, comme climat social, tu sais. Fait que ça me faisait très mal. Oui, ça m'a aussi... Bon, si tu parles de mon origine... Comment t'appelles ça?
Ton origin story, comme dans les films de Marvel.
C'est quoi la
blessure?
Non seulement mon père, mais je veux dire le fait que moi, depuis... Dès mon arrivée, je recevais cette forme d'intimidation-là de la part de certains chroniqueurs et animateurs. Ben, je me sentais évidemment... c'était très fort en moi l'idée que c'était injuste puis qu'il fallait pas que ça reste comme ça puis que si personne osait prendre la défense des musulmans par peur de se faire taper dessus à leur tour, c'était la principale raison pour le faire parce que ça me dérange profondément que ces choses-là arrivent constamment, tu sais.
Non, mais c'est intéressant le lien que tu fais parce que, je veux dire, moi, le rapport que j'ai aux médias ne peut pas s'expliquer sans comprendre le fait que je viens de la banlieue de Québec, puis que quand un gars comme André Arthur ou ses émules se levait le matin puis commençait à taper ses noirs, ben moi, comme la seule petite fille noire à Lévis qui monte dans l'autobus, je sens tout de suite... Non seulement tu l'entends, mais tu sens tout de suite la différence dans les regards que les gens portent sur toi quand tu arrives dans l'autobus le matin ou quand tu arrives dans le cours d'école le matin, puis que les enfants viennent écouter ça avec leur père dans l'auto pour se rendre à l'école. Tu sens tout de suite la différence. Ça influe d'abord mon intérêt pour les médias, parce que je comprends que c'est là que ça se passe. La politique et les médias se mêlent de nos vies, donc il a fallu que j'aille m'en mêler moi-même. Mais je pense qu'on n'a pas la même sensibilité à la question de l'intimidation et des médias lorsqu'on a grandi dans une ville qui opère comme ça.
Et j'aime cette hypothèse, je suis assez d'accord, oui.
Puis je pense que dans la manière dont les gens... pas de Québec, réfléchissent à le constat que tu fais sur les dangers de la violence médiatique. Je me dis, peut-être que toi et moi, on a vu l'affaire aller à un extrême, que les gens...
savent pas jusqu'où ça peut aller.
Savent pas encore.
Savent pas comment ça peut briser des vies, comment ça peut diviser des communautés, comment ça peut vraiment faire mal.
Ouais. Je pense que dans l'incapacité... de certaines personnes à se dire le quatrième pouvoir est un véritable pouvoir. Il y a
qui peut être l'objet d'abus.
Qui peut être l'objet d'abus et qui peut être l'objet de bullying.
Ouais.
Je pense que c'est les gens de Québec le savent. Les gens de Québec le savent. Si ton père a fallu qu'il déménage à l'extérieur de Québec, et c'est vraiment pas le seul. Il y a des dizaines d'histoires de gens qui ont fallu qu'ils quittent la ville parce qu'ils ont été ciblés par les radios. Carrément, on parle d'un exil là, à l'intérieur même du Canada. C'est fou, là. Hein?
Ouais.
Je pense que c'est quelque chose auquel, quand on ne l'a pas vécu, peut-être qu'on ne réfléchit pas de la même façon au potentiel de dérapage que cet écosystème-là implique, en fait.
Puis pas juste, tu sais, oui, le dérapage comme un truc désolant qu'on observe, mais la douleur, la souffrance que ça apporte, c'est quand tu l'as vécu ou quand tu... Même tu sais, des choses plus banales comme... Il y a eu un moment de guerre anti-cycliste. Ils voulaient pas que les cyclistes aient des pistes cyclables, il y avait pas tout ça, puis ils commençaient à dire des trucs horribles comme « Si vous en voyez un, klaxonnez-le, faites-y peur, rapprochez-vous de lui, tu sais, genre en auto, puis... » Quand t'étais à vélo, il y avait... Les gens prenaient la liberté, des gens prenaient la liberté de descendre leur vide puis de te crier « Va te promener sur une piste cyclable » ou « Dégage » ou genre des insultes ou de te coller avec leur auto pour te faire peur, tu sais. C'est une forme d'intimidation qui est épeurante, tu sais, mais le sentiment, tu sais d'où ça vient, tu sais. Puis des fois, t'entends même la radio dans le pick-up là, qui te colle, tu sais. Puis tu te dis « Hey, tu sais, l'agressivité que je viens de vivre, là, c'est donc bien gratuit, tu sais. T'es là, tu retournes chez vous, puis tout à coup, tu reçois un char d'agressivité dans le cœur, dans le corps, tu sais, ça te reste collé au corps pendant une demi-heure, là. Tu regrettes de pas lui avoir répondu ceci, cela, tu t'en veux à ces radios-là, puis là, ça se reproduit la semaine suivante, parce que c'est un tout petit exemple de ce que doivent vivre et ce qu'ont dû vivre des gens qui sont sur l'aide sociale, qui entendent ça au dépanneur, qui entendent ça dans l'autobus. L'exemple que tu donnais tantôt quand tu rentrais dans l'autobus, tu sais, ça, c'est tous les jours, c'est quotidien, c'est dans toutes sortes de groupes de la société qui sont ciblés comme ça, puis c'est... ça provoque des souffrances vraiment et des divisions aussi dans les lieux de travail, les cours d'école.
Mais ça provoque une conscience aussi, hein? T'es la personne que t'es politiquement, je suis la personne que je suis médiatiquement à cause notamment de ça.
C'est sûr.
Puis peut-être pour terminer sur une note d'espoir, hein, parce que ça reste dans le titre, il y a, je trouve, dans les gens qui ont vécu ça ou dans les gens qui sont sensibles à ça, justement une critique ou une lecture ou une grille d'analyse des dynamiques politiques qui peut être très intéressante qui émerge de ça. Autant la ville de Québec, ça peut être un endroit, ce qui, à certains égards, est très conservateur. Ça peut être aussi un endroit où, justement, à cause de ça, les gens ont une lucidité.
Oui, alors moi, je vois ça.
Incroyable sur l'écosystème politico-médiatique aussi. Moi, ça fait partie des choses qui me donnent de l'espoir. C'est de voir les consciences qui s'aiguisent dans l'expérience.
Oui.
Qu'est-ce qui, toi, te donne peut-être aussi de l'espoir? Mais
j'aime vraiment comment tu le dis. Les consciences qui s'aiguisent dans l'expérience, il y a quelque chose de ça qui me... ah, tu sais, si on essaye autre chose et qu'on... Et là, moi, j'ai essayé une autre chose pendant mon mandat. Mais on peut essayer mille autres choses. Et chaque fois qu'on essaye, ça shake, puis on reçoit un bon backlash, tu sais. Mais on gagne de l'expérience à faire ça, puis aussi, ça nous éclaire sur quel est vraiment le terrain, tu sais. C'est quoi vraiment le terrain de lutte? Pas le terrain de quelle loi je peux faire passer ou quel message je peux dire aux médias pour avoir un beau titre, là. Je parle pas de ça. Je parle de d'ouvrir les possibles parce qu'on sent qu'il n'y en a plus. Fait que comment les ouvrir? Bon, la lutte pour ouvrir les possibles est très difficile, c'est super dur, mais chaque fois qu'on essaye, on vient jeter un éclairage dans une zone qui était non défrichée, qui est encore dans le noir de nos relations de pouvoir sociologique, de comment le pouvoir s'imprime sur nous, nous empêche d'agir, muselle nos voix, nous intime de ne pas parler, tu sais, c'est parler, la parole, juste la parole dérange le pouvoir souvent, tu sais, la sortie de ce livre-là, pour moi, c'est un exemple, une petite libération de parole qui dérange beaucoup. Mon espoir réside dans ça, dans il est encore possible d'essayer d'autres choses. Il est encore possible de jeter des éclairages dans des endroits qu'on ne connaît pas. Donc, c'est comme quand tu cherches quelque chose dans ta maison. Si tu as cherché partout, tu n'as pas trouvé ce que tu cherchais, mais tu n'es pas encore allé dans le sous-sol ni au premier étage, ben là, tu as encore plein d'espoir. Tu peux aller avec ta lampe de poche, voir c'est où, est-ce que... et si on essaye ça, 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 ça. Faut juste, à mon avis, j'appelle ça le désir d'irrévérence, mais faut oser sortir des chemins qui sont tapés. Des chemins de tous ceux qui nous disent c'est par là-bas, puis sinon, tu n'as pas d'allure. Non, faut prendre goût à ça. Donner des exemples aussi à d'autres qui vont peut-être se dire « Ouais, moi, c'est comme ça que je veux faire ça, ça m'inspire. » Il faut quelque part libérer l'énergie qui sont dans ces zones-là qu'on n'a pas défrichées depuis trop longtemps, où on ne sait pas qu'il existe peut-être des sources d'énergie populaire, bon, puis là, tout ça, c'est un peu... C'est encore enfin, c'est très brumeux, mais il y a une recherche à faire puis à essayer.
Oui, dans le fond, ce que tu dis, c'est que si on essaie de sortir du chemin battu, puis que ça mène à, je sais pas, un ravin, ben essaye de sortir du chemin battu par l'autre boisé.
C'est ça.
Puis l'autre boisé, puis l'autre rivière, puis on verra éventuellement ce que ça va donner.
Puis on va trouver d'autres gens sur ces terrains-là qui essayent, qui cherchent aussi. Puis tu sais, on va trouver des gens qui sont vraiment animés par le désir de reprendre du pouvoir sur notre politique et non pas de juste surfer dans les hautes sphères en s'installant là pour y rester pendant puis finir avec une job de ministre.
C'est tout pour Détour.
Hey, c'était donc bien le fun.
Merci Catherine. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a envie d'entendre vos commentaires. Vous pouvez toujours nous trouver sur X à Canada Land et vous pouvez m'envoyer un courriel à emily@canadaland.com. Catherine, ton livre « Les têtes brûlées, carnet d'espoir punk » qui est aux éditions Luxe, que les gens peuvent trouver désormais dans les librairies. Et ensuite?
Début 2025, un show de théâtre documentaire sur la politique qui s'appelle « Sciences Po 101 », traité d'insoumission à l'usage du vrai monde. C'est, ça va être quelque chose de très ludique, très interactif. On va faire voter le monde, on va essayer de les inciter à se soulever à la fin du spectacle. Ça va être bien trippant.
2025, t'as dit.
2025, oui. Puis on fait un film aussi, un documentaire sur les territoires, avec des artistes, sur nos territoires imaginaires occupés et les façons de chercher à faire des actes de guérilla pour retrouver ce territoire imaginaire-là collectif qui est occupé par une machine d'économie de l'attention de plus en plus destructrice.
Et tout ça à suivre, donc. Déjà, t'es partie de la politique, mais certainement pas partie à la retraite. Vous pouvez maintenant écouter les nouveaux épisodes de Détour aux deux semaines sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous. Cet épisode est produit par Nancy Pettinicchio. La production technique est par Tristan Capacchione. Karine Pugliesi est notre rédactrice en chef. La musique du générique est par SoCalled. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria. Leur site web est cfuv.ca. Détour est disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux et parlez-en à vos proches.